Tiens, tiens, bonsoir. Bien, ça fait plaisir de vous voir. Merci d'être venu. Allez-y, hein, entrez, je vous en prie. Ne faites surtout pas attention au désordre. Il y en a un petit peu partout, des vinyles, des CD, peut-être même quelques cassettes, ça ne m'étonnerait pas. Alors, ce qui va se passer durant l'heure qui va suivre, eh bien, c'est très simple. On va piocher dans tout ça et voir un peu ce qui en sort. Bienvenue dans mon joli foutoir.
Bring him back. Run those out over the fence and the little ones through the cracks. Said his, hey, Sandy boys, hey, get along, I say. Hey, Sandy boys, waiting for the break of day. Waiting on the break of day. Hey, Sandy boys, hey, get along, I say. Hey, hey, Sandy boys, Jenny, won't you come along too?
Voici encore un groupe que j'ai découvert grâce à l'excellent festival des musiques d'ici et d'ailleurs de Châlons-en-Champagne. C'était, je pense, leur 17e édition en 2008 avec, entre autres, au programme Carolina Chocolate Drops, une fille et deux garçons originaires, comme leur nom l'indique, de Caroline du Nord. C'est auprès du violoniste vétéran Joe Thompson qu'ils avaient découvert la musique traditionnelle afro-américaine de leur région. Et ils avaient repris le flambeau pour apporter un petit peu de fraîcheur à cet antique répertoire et aussi pour qu'ils continuent à vivre. Eh bien, pari gagné, hein, c'était particulièrement évident sur scène avec l'énergie que dégageaient les trois jeunes musiciens. Malheureusement, il est trop tard pour en profiter. Le trio s'est séparé en 2014. Mais il nous reste 5 albums, dont un en public avec Joe Thompson. Je vous conseille particulièrement le 4e Genuine Negro Jig, salué en 2010 par le Grammy Award du meilleur album folk. C'est celui sur lequel figure le morceau qu'on vient d'écouter. On peut aussi retrouver à présent les anciens musiciens du groupe avec leurs projets solo respectifs, notamment la chanteuse Rhiannon Giddens et le multi-instrumentiste Dom Flemons. Mais bon, c'est quand même une musicienne dont le passage au sein des Carolina Chocolate Drops a été très éphémère, qui tire le mieux à présent son épingle du jeu. Il s'agit de Leila McCalla. On connaît bien à présent cette violoniste, banjoïste et chanteuse habituée de nos ondes nationales. Cette année, elle a sorti un nouvel album. Elle vient également de boucler une courte tournée française qui s'est achevée il y a 2 jours au New Morning à Paris. La semaine dernière, eh bien, c'est à l'Opéra Underground de Lyon qu'elle était. Et devinez quoi, j'y étais aussi. On en reparle tout à l'heure après l'avoir écoutée. Voici Leila McCalla.
La vie vient née comme c'est sous crêpe soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vient née comme c'est sous crêpe soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. Là, je pas fait boule, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre. Sous la terre bénie, la joie pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre. Sous la terre bénie, La vie vient n'est qu'à prêcher sous crêpe soleil, même si la terre c'est pas votre malheureux. La vie vient n'est qu'à prêcher sous crêpe soleil, même si la terre c'est pas votre malheureux. Là je pas fait pour nos poches malheureux, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là je pas fait pour nos poches malheureux, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Mes amis, là, j'en pas fait pour l'eau.
Non, pas j'parlerai.
Mes amis, là, j'en pas fait mon nez,
non. Non, pas j'parlerai.
Mes grands confélites pensées, oh.
Non, pas j'parlerai.
Mes amis, là, j'en pas fait pour l'eau.
Non, pas j'parlerai.
La vie vient n'est qu'à pêcher sous crêpe soleil, même si la terre, c'est pas votre malheur. La vie vient n'est qu'à pêcher sous crêpe soleil, même si la terre, c'est pas votre malheur. Là je me pas fait pour nos poches malheureux, nous fait pour nous vivre sur la terre bénie. Là je me pas fait pour nos poches malheureux, nous fait pour nous vivre sur la terre bénie. Mes amis, là je me pas fait pour nos
poches malheureux.
Mes amis, là je me pas fait mon nez, non.
Nos poches malheureux.
Mes grands contre l'idée pensée, oh.
Nos poches malheureux.
Mes amis, là, j'en pas fait pour l'eau.
Non, pas j'parlerai.
Mes amis, là, j'en pas fait mon nez,
non. Non, pas j'parlerai.
Mais quand rentrer les dépensés,
non, pas j'parlerai.
Non, pas j'parlerai.
Famille, oh, s'il te
Laisse-moi passer la nuit. Laisse-moi passer la nuit ici. Oh, je t'en prie, je veux la passer dans ton lit. Pauvre garçon, loin de ta maison.
Peuvent profiter d'un lieu de concert comme l'Opéra Underground, le genre d'endroit où l'on vous programme un soir la Québécoise Myriam Gendron et le lendemain l'Américaine Leila McCalla. Bon, un joli doublé, hein, car même si les deux musiciennes diffèrent radicalement dans leur manière de se produire sur scène, elles ont beaucoup de points communs. Les musiques traditionnelles, pour commencer, qu'elles se réapproprient chacune à leur manière. La francophonie également, qu'elle soit québécoise chez Myriam Gendron ou bien créole et cadienne chez Leila McCalla. Et puis aussi l'emploi de sons collectés, un procédé dont elles se servent toutes les deux pour apporter du relief à certaines de leurs chansons. Le dernier album de Myriam Gendron, Ma Délire, m'avait bouleversé lorsque je l'avais découvert l'année dernière. Seule sur scène, les yeux toujours fermés pendant qu'elle chantait, la Québécoise en a interprété l'intégralité, n'accordant qu'un seul titre à son album précédent. On vient d'écouter Poor Girl Blues, une adaptation au féminin d'un morceau traditionnel intitulé Un Canadien errant. Et vous connaissez peut-être la très étonnante version mariachi qu'en avait donné un autre Montréalais, Leonard Cohen, sur son album Recent Songs en 1979. Le concert était très beau, très intense, porté par le timbre grave et légèrement voilé de la chanteuse et son jeu de guitare tout en délicatesse. Mais bon, après l'album, on n'en attendait quand même pas moins. Le lendemain et le surlendemain, car elle était là pour deux soirées, eh bien c'est en groupe qu'a joué Leila McCalla avec un guitariste, un contrebassiste et un batteur, tous excellents, elle-même se chargeant de la voix, du banjo, de la guitare rythmique et du violoncelle. Là encore, le répertoire était basé en priorité sur son plus récent album « Breaking the Thermometer », un disque sur lequel Leila McCalla explore ses racines haïtiennes, ce qui lui donna l'occasion notamment d'évoquer entre les morceaux l'histoire trop peu connue de ce pays. Je garde le souvenir d'une chanson cajun jouée au violoncelle, hein, pas vraiment le genre d'instrument associé à cette musique, et puis d'une manière générale d'un joli cocktail de sonorités caribéennes et néo-orléanaises, interprété avec beaucoup de chaleur et d'humanité. Là encore, un très très bon concert, salué à juste titre par une ovation debout et par plusieurs rappels. Alors voilà, il serait bien étonnant que je ne retourne pas un jour à l'Opéra Underground. Avec une programmation de ce calibre, il faut dire que les 300 km qui me séparent de Lyon feraient presque figure de formalité. Un morceau qui sonne comme un classique des années 60, mais qui est en fait tout nouveau. C'est le fruit d'une collaboration entre le vétéran américain Mark Johnson et le genou espagnol Ramirez Exposure. Le premier avait débuté dans le circuit folk de Greenwich Village, avant de sortir en 1972 un bel album de pop baroque intitulé « Years ». Après ça, il n'a plus enregistré que de manière très épisodique, mais il a par contre beaucoup écrit pour les autres, Robert Gordon, Dave Edmunds, Eurochild ou bien The Smithereens, pour ne citer qu'eux. On lui doit également des chansons pour plusieurs films de Disney, notamment Ratatouille. Quant à Ramirez Exposure, eh bien c'est un jeune trentenaire basé à Valence, auteur déjà de 3 albums solo avant qu'il s'associe avec Mark Johnson. C'est par hasard, en surfant sur le net, qu'il était tombé un jour sur le 2e disque de Johnson, 12 in a Room, sorti en 1992. Ça lui avait tellement plu qu'il était entré en relation avec lui via Facebook. Au fil de leurs échanges, eh bien une véritable amitié s'est créée. Mark Johnson a ainsi accepté de produire le 2e album de Ramirez Exposure, Young is the New Old. Entre-temps, ses propres disques avaient été réédités en Espagne, ce qui lui a donné l'opportunité de venir sur place. Il s'en est suivi quelques concerts avec Ramirez Exposure, puis une véritable tournée. L'étape suivante était prévisible, c'est celle qui vient d'avoir lieu avec l'enregistrement d'un album commun intitulé Turning on the Century Volume 1, ce qui laisse à penser qu'il y en aura un deuxième. Et c'est tant mieux, car l'album est très réussi. On vient d'en avoir un exemple avec Tape Recorder, c'est le morceau qui ouvre l'album et de l'aveu de Mark Johnson lui-même, un hommage au chanteur américain Dion. On reste en Espagne avec une habituée de cette émission, c'est la chanteuse catalane Maria Rodés. Après un album country en duo avec la Estrella de David, eh bien c'est sous son nom qu'elle revient cette année pour un album intimiste et très personnel intitulé « Fuemos los dos », « Nous étions tous les deux ». Il est né d'une séparation amoureuse que la chanteuse a connue juste avant le Covid et les premiers confinements. Elle s'était donc retrouvée toute seule chez elle à broyer du noir. Et plutôt que de consulter sa psy en visio, elle a préféré exorciser cette histoire en faisant des chansons. Voici l'une d'entre elles, « Te voy a querer igual »,« Je vais t'aimer autant qu'avant », Maria Rodés.
Hoy no tengo fuerzas, no pienso salir, me quedo en la cama. Para cuando vuelvas, me vas a encontrar, aún con el pijama. Y me besarás casi sin mirar, tal vez ni te acordarás si yo te voy a querer.
Te voy a querer igual, c'était Maria Rodés sur son tout nouvel album Fuimos los dos. On retourne aux États-Unis avec des albums dont je vous ai déjà souvent parlé dans cette émission. Ce sont les compilations The Rock Machine, des disques à prix cassé, édités à la fin des années 60 par CBS Columbia pour faire connaître leur catalogue. Ce qui faisait, soit dit en passant, bien l'affaire des amateurs de rock désargentés dont je faisais partie. Bon, de mémoire, il en coûtait 9 francs et des poussières pour acheter ces disques, alors que les albums les moins chers à cette époque valaient déjà le double. Et puis on y faisait de belles découvertes, puisqu'à côté des valeurs sûres du label, Bob Dylan, Big Brother, Leonard Cohen, les Byrds ou bien Simon et Garfunkel, on y trouvait aussi des groupes beaucoup moins connus mais tout aussi intéressants, comme The Peanut Butter Conspiracy ou bien encore The United States of America. C'est de ces derniers qu'on va parler aujourd'hui. Un groupe dont la décision de faire du rock relevait plus d'une démarche intellectuelle que d'une véritable adhésion artistique. Son créateur Joseph Byrd avait fait partie au début des années 60 de la scène expérimentale new-yorkaise. Il avait notamment fréquenté le groupe Fluxus aux côtés de John Cage, de Lamonte Young, de Yoko Ono et de quelques autres. C'est là qu'il avait rencontré la chanteuse et musicienne Dorothy Moskowitz, qui était une élève de Otto Luening, un pionnier des musiques électroniques. Ça avait tout de suite fonctionné entre eux et ils étaient partis s'installer à Los Angeles pour continuer à faire de la musique expérimentale avant de s'intéresser ensuite au jazz et à la musique indienne. C'est au milieu des années 60 que Joseph Byrd a eu l'idée de créer un groupe de rock. Il pensait que c'était le moyen le plus efficace pour toucher un large public et pour diffuser de cette manière ses idées progressistes et politiquement très à gauche. Il était membre du Parti communiste, ce qui était loin d'être anodin dans les États-Unis des années 60. C'est donc ainsi qu'est né The United States of America, un nom évidemment chargé d'ironie et à ne pas prendre au premier degré. The United States of America était un groupe bizarre par bien des aspects, qui faisait du rock sans utiliser de guitare et dont les musiciens étaient tous issus de la scène expérimentale. Ce fut aussi l'un des premiers à utiliser systématiquement des instruments électroniques, synthétiseurs, oscillateurs, modulateurs, la plupart construits spécialement pour eux, car à l'époque il était évidemment impossible d'en trouver dans les magasins. Ils étaient également connus pour leur spectacle à la mise en scène très élaborée, avec des projections, des néons, des écrans de fumée et même une nonne gonflable. Et oui, c'est l'époque qui voulait ça. Sorti en 1967, leur seul et unique album a reçu un bon accueil critique, mais par contre beaucoup plus tiède auprès du public, il s'en est vendu très peu. Le groupe s'est ensuite rapidement désagrégé, miné par les dissensions musicales entre ses différents musiciens. Il y en avait qui étaient partisans d'une ouverture plus commerciale, d'autres, à commencer par Joseph Byrd, qui désiraient préserver au contraire une ligne plus radicale. Bref, ça ne pouvait pas fonctionner, tout le monde s'entre-déchirait dans les coulisses, et c'est comme ça que l'aventure s'est arrêtée précocement. Il nous reste cet album, réédité de nombreuses fois et facilement disponible aujourd'hui. Et on peut noter, car c'est assez rare pour les formations de cette époque, que, à l'exception du bassiste décédé du Covid il y a 2 ans, tous les membres du groupe sont encore vivants et vaillamment octogénaires. Voici un morceau signé par la chanteuse Dorothy Moskowitz, ça s'appelle « Coming Down ». The latest secondary fair. difficile de ne pas penser aux premiers titres électriques de Bob Dylan sur ce morceau de Mimi et Richard Farinha, extrait de leur album Reflections in a Crystal Wind en 1965. Ce fut le deuxième et dernier disque que le couple enregistra ensemble. En effet, l'année suivante, Richard Farinha disparaissait dans un accident de moto près de Carmel, en Californie. Sa femme Mimi n'était alors âgée que de 21 ans. Comme vous le savez sans doute, c'était la sœur cadette de Pauline et de John Baez. Elle a ensuite continué à faire de la musique et à militer. On lui doit également la création de l'association caritative Bread and Roses, dont le but est d'apporter des spectacles vivants à des personnes en situation d'isolement ou de confinement. C'est une activité qui a beaucoup occupé Mimi Farinha à partir du milieu des années 70. Alors on a la chance d'avoir un témoignage de première main la concernant, c'est celui de son amie française Martine Habib. C'est par une relation commune qu'elle avait fait connaissance de la famille de Mimi et notamment de ses parents Albert et John Senior, qui vivaient à l'époque à Paris où le père travaillait. Il était professeur à l'UNESCO. Martine Habib, elle était apparue au milieu des années 60 parmi les musiciens folk de toute nationalité qui fréquentaient alors le centre américain du boulevard Raspail. Un peu plus tard, elle s'était faite remarquer auprès de Gilles Marshall, avec qui elle avait enregistré quelques duos très réussis. Elle est ensuite partie s'installer aux États-Unis, où elle a sorti chez Columbia un album de chansons originales en 1973. Un autre enregistré en 1987 n'est par contre jamais sorti. Et après ça, eh bien Martine Habib est passée à autre chose. Elle vit toujours aux États-Unis, où elle s'occupe à présent de créer des programmes informatiques. Alors j'avais passé une de ses chansons dans Joli Foutoir en juillet 2017. Et j'ai été très très surpris, mais aussi très heureux de recevoir un retour 5 ans plus tard. C'était l'occasion ou jamais de lui demander de partager avec nous ses souvenirs de Mimi Farinha. Et voici ce qu'elle m'a écrit à ce propos, je la cite. « Pendant ma tournée américaine de 1973, dit-elle, je me trouvais souvent dans la même ville que Mimi, qui tournait alors avec Hoy Thaxton. Nous nous entendions très bien. Mimi était une musicienne bien plus accomplie que John. Elle connaissait très bien la musique traditionnelle et jouait merveilleusement de la guitare acoustique. Elle aimait aussi beaucoup le cinéma. Après la résiliation de mon contrat avec Columbia, nous avons chanté et voyagé ensemble pendant 2 ans. » Par la suite, nous avons perdu le contact, mais nous nous sommes retrouvés après que Mimi ait appris qu'elle souffrait d'un cancer incurable et nous avons correspondu par la suite jusqu'à sa mort en juillet 2001. Je suis toujours en bonne relation avec John et son fils Gabriel, un percussionniste fantastique qui habite pas loin de chez moi. Voilà, un grand merci à Martine Habib pour tous ses souvenirs. On va l'écouter immédiatement avec un extrait de son album inédit de 1987, un disque intitulé A Devil in Limbo, dont je vous ai extrait ce soir New York City Breakdown, Martine Habib.
Don't know 52nd Street isn't the only place I go to. I know there's nothing there to gain. Cold winds and the rain and a little more pain down in the subway. The noise can feed my anger. At the radio, some no good show. The time that goes slow and all the things I'll never know. Things ever quite the same. Central Park has lost the game. Don't mess around with fame. Yes, I believe you when I can share your understanding. That's the way it goes. I shouldn't feel so low. I knew it somehow. Earthly glow. Forget and look at the sky somewhere in Midtown. looks like the sun shines everywhere. But above the street I'm on, like it's forever gone. My taxi driver saw the sun one time on St. Croix. Cost him half a grand on the family plan, just to lie on the sand. He'll never do that one again. And you, every now and then I'll shake his head, I'll say, I'm special, I'm worth like he. Don't you know my name? I've been to Spain, I fly on planes, give me shelter from the rain.
City Breakdown, c'était Martin Habib sur son album Devil in Limbo, un album sorti uniquement sous forme de cassette à des fins de démarchage auprès des maisons de disques. Elles sont plus de 100 à l'avoir reçu et toutes l'ont refusé. De quoi effectivement vous filer un petit coup de blues. Allez, une séquence classique à présent. Après avoir exploré dans les précédentes émissions les œuvres de compositrices et compositeurs peu connus, place ce soir à un musicien célèbre, c'est le russe Serge Rachmaninov. Sa réputation était déjà bien établie lorsqu'éclate la révolution d'octobre 1917 qui le pousse à quitter son pays natal pour aller s'installer aux États-Unis. Une fois sur place, eh bien, il lui faut repartir de zéro et pour des raisons économiques, il est alors obligé de délaisser la composition pour se consacrer principalement à ses activités de concertiste. Il ne se remet à composer qu'à partir de 1926. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas perdu la main, puisque c'est à partir de cette période qu'il compose quelques-unes de ses œuvres les plus marquantes, à commencer par sa fameuse rhapsodie sur un thème de Paganini, opus 43, écrite en 1934, une pièce dans laquelle figure un véritable tube de la musique classique, avec la variation numéro 18, 3 minutes d'un romantisme exacerbé et d'une ampleur très cinématographique. Il n'est d'ailleurs pas surprenant que le 7e art s'en soit très souvent emparé. Citons entre autres Dead Again de Kenneth Branagh et Un jour sans fin de Harold Ramis. Parmi les très nombreuses versions de cette variation 18, j'ai choisi pour sa qualité d'enregistrement celle interprétée par le jeune prodige russe Danil Trivonov et l'orchestre de Philadelphie sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. C'est sorti en 2015. Thank you.
Ces jeunes sirènes émergent d'un océan de sang. Regarde-les s'approcher comme légions d'Amazones venues braver les cyclones. Jeunes et brillants archers, leurs arcs et leurs yeux bandés, s'aventurant dans des zones inexplorées. Toi qui rêves au velours des vierges, aux satins innocents, ces jeunes sirènes émergent d'un océan de sang. Vois-tu là-bas leurs chevaux courir un vent de folie, la hargne de ces furies leur sortant par les naseaux. Elles se jettent à l'assaut, se ruant à l'agonie au grand galop. Toi qui rêves, velours des vierges, aux satins innocents. Vois-tu venir les Amazones à la lueur de ton glaive? Va-t'en compter les blessés. La belle s'est relevée et te supplie dans son rêve de l'achever. Toi qui rêves au velours des vierges, aux satins innocents, tes romans fleuves ont des berges aux sables émouvants.
Il y avait tout d'abord Danil Trivonov et l'orchestre de Philadelphie qui interprétait la variation numéro 18 de la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Serge Rachmaninov. Et puis on a enchaîné à l'instant avec les Rita Mitsouko, un enregistrement en public réalisé en 2002 au Théâtre des Champs-Élysées avec l'orchestre L'Amoureux. C'était le Velours des Vierges, une reprise d'une chanson de Serge Gainsbourg, interprétée à l'origine par Jane Birkin. C'est tout récemment que j'ai découvert à la radio cet album dont j'ignorais jusqu'ici complètement l'existence. Un très beau disque pourtant, avec quelques titres originaux des Rita, mais surtout beaucoup de reprises. Outre la chanson de Gainsbourg, on en trouve pas moins de 3 de Léo Ferret sur des textes de Paul Verlaine, une de Neil Young, une de Philippe Glass et puis enfin une dernière de Charles Trenet. Allez, direction le Danemark avec une petite vieillerie des Ravenettes. Leur premier mini-album Whippeton, sorti en 2002, présentait 8 chansons en ré mineur et devait être complété quelques mois plus tard par un deuxième mini-album, Chain Gang of Love, avec cette fois-ci des chansons en ré majeur. Seulement voilà, entre-temps, les Ravenettes sont cartonnés aux États-Unis, ce qui a entraîné un contrat chez CBS, et c'est là qu'est sorti finalement Chain Gang of Love, dans une version différente de celle prévue à l'origine. Il aura fallu attendre 20 ans pour que le projet initial voit enfin le jour sous la forme d'un beau vinyle qui est paru tout récemment, avec en face A Whippeton et en face B Chain Gang of Love. C'est l'occasion de vérifier que, en mode mineur comme en mode majeur, ces 16 morceaux n'ont pas vieilli du tout. La preuve immédiatement, Do You Believe Her? Voici The Ravenettes.
Yeah.
Il y avait pour commencer The Ravenettes avec Do You Believe Her sur la réédition en un seul vinyle de leurs deux premiers mini-albums Whip It On et Chain Gang of Love. C'était suivi à l'instant par les Néerlandais de Night Blooms avec 59 Number 2, extrait de leur premier album en 1992. Ils n'en ont fait qu'un autre ensuite avant de se séparer et il a fallu attendre quelques années pour retrouver le noyau créatif du groupe composé du guitariste Harry Houghton et de la chanteuse Esther Sprinkleman. C'est avec le nouveau millénaire qu'ils sont réapparus avec ce nouveau projet baptisé Safe Home pour une musique très différente de celle qu'ils pratiquaient autrefois, aussi calme et acoustique que celle des Night Blooms pouvait être bruyante et électrique. Safe Home a sorti une série de 45 tours autoproduits entre 2000 et 2002, suivi par un album en 2005, après quoi ils sont retournés au silence. On pouvait penser 17 ans plus tard qu'ils s'étaient définitivement tus. Eh bien, on se trompait, puisqu'ils viennent de ressurgir cette année avec un nouvel album, un disque tout aussi calme et serein que ses prédécesseurs, mais chanté cette fois-ci en néerlandais et souligné, pas dans sa totalité mais au moins en partie, de sons électroniques. L'album s'appelle « Un jaar met 13 maanden », ce qui veut dire « un an avec 13 mois ». Et on en écoute un extrait intitulé « Tuinman », en français « jardinier ».« Safe home » est dans Joli Foutoir.
De Volkstuin is verlaten, het regent op het raam. Kwam tijd, kwam raad, kwam tijd, kwam tijd. Gebarsten druppels vallen, tergend traag. Kwam tijd, kwam raad. Kwam tijd, kwam tijd, kwam raad, kwam tijd, kwam tijd, kwam tijd, kwam raad, kwam tijd. De tuinman kwam gebogen, het zwaaien van zijn. Kwam tijd, kwam raad, kwam tijd, kwam tijd. En hoe hij zei de hoogste, pauzeren kon hij nooit. Kwam tijd, kwam raad, kwam tijd, kwam tijd. Kwam tijd. Wachten, nergens laat. Toen het nog zomer was, lupinen lang en paars. Kwam tijd, kwam raad. Kwam tijd, kwam raad. Kwam
tijd, kwam raad, kwam tijd, kwam tijd.
Steinman, c'était Safe Home sur leur nouvel album. Et on peut saluer au passage la manière dont Esther Sprinkelman fait sonner agréablement à l'oreille la rêche langue néerlandaise, ce qui n'est pas si simple. Voilà, c'est donc avec ça que se termine ce 99e joli foutoir. Et oui, rendez-vous dans 15 jours pour la 100e. Je ne sais pas encore comment on va célébrer ça. Peut-être finalement en ne faisant rien du tout et en se contentant de diffuser toutes les nouveautés qui nous sont arrivées dernièrement. Elles sont nombreuses. Bon, on verra bien. En attendant, n'ayez crainte, je n'aurai rien rangé. Un joli foutoir, c'est quelque chose qu'il faut entretenir et vous pouvez compter sur moi pour ça.